Aujourd'hui, Colette, nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous Josette Ricaud, pour la première fois, qui va nous présenter une femme singulière en son temps. Colette a suscité beaucoup de réflexions et donc il y a à son sujet énormément de biographies. Vous êtes agrégée de lettres, docteur ès lettres, et vous avez consacré un essai, un ouvrage important à Colette. Grâce à vous, nous allons découvrir une femme écrivain, une femme que, pour beaucoup, nous croyons connaître, à travers quelques lectures de nos jeunes années, parfois même quelques dictées, si vous vous souvenez. Par exemple, Les Vrilles de la Vigne, Colette et ses chats, ou La très chère Sido. Nous avons donc une grande envie d'en savoir davantage sur cette femme qui a marqué le début du XXe siècle par l'importance qu'elle a représentée, les contacts qu'elle a eus, et aussi un grand écrivain. Merci d'être parmi nous et nous vous écoutons.
Merci. Alors, je vous remercie. Je remercie l'Université du Temps Libre de Sarlat et Geneviève et toute l'équipe qui a mis en place effectivement cette possibilité de faire cette conférence. Je remercie le public qui est sorti malgré un temps vraiment d'escargot. Alors, je vais vous parler de Colette, une femme singulière en son temps qu'on n'arrête pas de découvrir, qui est quand même sujette, vous verrez, à des polémiques. C'est ça qui m'a intéressée aussi chez elle. Et entre l'image finalement qu'elle a pu donner quand elle a eu à faire au fond sa carrière de façon académique et officielle, donc à Paris et en France, et puis peut-être aussi, je dirais, les arrière-plans un peu plus sulfureux qu'elle est arrivée à dépasser, avec lesquels elle a fait quand même, qui montrent effectivement une image ambiguë de cette femme. C'est une femme, tout simplement, qui... Donc je vous en parle les avantages en le détail. Ben oui, rien n'est simple dans la vie des femmes. Donc 2023, vous le savez, c'est l'année du 150e anniversaire, donc de la naissance de notre écrivain. Mais après tout, est-ce qu'il faut attendre ces années anniversaires commémoratives pour célébrer quelqu'un comme elle et comme d'autres d'ailleurs? Non, sans doute. Surtout quand on sait qu'au début du XXe siècle, savoir s'imposer dans le champ littéraire qui était dominé par les hommes en tant que femme et femme provinciale, sans compter effectivement ce qu'elle a laissé paraître d'elle au début, c'était quand même un sacré pari qu'elle a surmonté, qu'elle a relevé. Et on peut dire que Colette, qui est née donc Sidonie Gabrielle, Gabrielle Sidonie, Colette, du nom de son père c'était le capitaine Jules Colette, dont elle a pris le nom pour en faire son patronyme donc d'écrivain, cette femme va relever, et même très brillamment, le pari et les paradoxes dans lesquels elle s'est présentée lorsqu'elle est arrivée à Paris. Et on la verra vers la fin de sa vie, grandie, évidemment par ses talents, mais par aussi, je dirais, je ne peux pas parler de stratégie, de conquête du champ littéraire quand il est dominé par des gens comme Gide, Mauriac, Aragon, etc. Mais il y a quand même de sa part une habileté, une intelligence sociale qui lui a permis quand même d'arriver à, je dirais, en haut finalement de ce champ littéraire et d'être reconnue par ses pairs, P-A-I-R-S, alors même qu'au départ, c'est ce dont je vais vous parler, rien ne semblait la prédisposer, objectivement en tout cas, à ce destin de très grand écrivain dans la littérature française. C'est encore un nom, même si l'université l'ignore, l'ignore encore. Donc on va voir Colette et la littérature, comment elle y entre dans la littérature. Alors a priori, vous le savez, c'est une bourguignonne, c'est-à-dire une provinciale. Aujourd'hui, c'est presque une insulte de dire qu'on est provincial quand on arrive à Paris, mais c'était bien pire à l'époque où elle est née, donc c'est en 1873, elle a commencé à aller à Paris à la fin de ce 19e siècle, c'était bien pire d'être une bourguignonne. C'était en même temps une facette de sa personnalité dont elle jouait, elle roulait les airs dans les salons mondains de la littérature dans lesquels elle a été amenée, au fond, grâce à Willy. Donc, ça n'était pas donné d'avance. Elle naît donc dans une petite commune sans prétention, à vocation rurale, avec des bourgeois, des bourgeois, on peut dire ça, Saint-Sauveur en Puisée. Hein, c'est donc en Bourgogne, dans le département de l'Yonne. Et dans cet environnement provincial, villageois, on peut dire que la famille Colette est plutôt mal vue, plutôt très mal vue, on verra pourquoi. A priori, c'est une bourgade relativement anonyme. On peut se dire, naître là, et en étant ce que cette famille est, se présente, en tout cas la mère essentiellement, ça n'est pas gagné pour devenir un grand écrivain national. Donc, c'est dans cette commune, cependant, que Colette a été éduquée. Elle est allée à l'école communale laïque, la mère étant violemment athée, voire même antitéricale, je vous citerai un exemple. Et donc, elle a été éduquée, elle a reçu une très bonne éducation, c'est-à-dire que, tout en étant quand même cette petite villageoise, elle a reçu, grâce à l'environnement familial, une éducation très soignée. Une bibliothèque au premier étage, qui appartenait au père et dans lequel d'ailleurs il se réfugiait, et des livres, beaucoup de livres, rien ne lui était interdit. Et par conséquent, elle s'est formée en quelque sorte à la littérature, et elle avait pris d'ailleurs comme exemple Balzac, ce phénomène considérable l'a étonnée, qui lui a donné envie au fond aussi d'écrire, parce que c'était un écrivain prolifique, et qui allait son chemin finalement en dépit des difficultés, vous savez qu'il en a eu. Alors, par ailleurs, la maison dans laquelle elle est née, c'est Saint-Sauveur en Puisée, donc, c'est une maison qui est devenue le musée Colette et le siège de l'association des Amis de Colette. Moi, je dirais que c'est une. Je ne devrais pas dire ça, surtout si c'est enregistré. Mais enfin, mais la Société des Amis Colette, je dirais, un peu vu de loin. C'est un peu une secte, je dirais, fétichiste. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement la littérature de Colette qui les intéresse, c'est tout ce qui permet d'amener du monde. Il n'y a pas grand monde à Saint-Sauveur en Puisée. Allez-y, c'est un trou. Hein. C'est vraiment un trou perdu. Donc, et on y trouve même, d'ailleurs, dans ce musée Colette, on ne s'y attend pas, des ateliers culinaires, puisqu'effectivement, dans certains textes, dans sa biographie, elle ne l'a pas caché, Colette disait « Je suis gourmande, je suis gourmande ». Et d'ailleurs, ceux qui l'ont connue témoignent de la rondeur qu'elle avait acquise, de plus en plus avantageuse au fur et à mesure où elle avançait dans l'âge, qui était aussi le signe d'une prospérité. Donc ce pays qu'elle a quitté jeune, après son mariage, elle devait avoir 18-19 ans, après son mariage avec Willy, qui est le fils d'un ami de son père, il va la marquer, ce pays qu'elle a quitté, poétiquement et littérairement. Pas plus que ça, parce que Saint-Sauveur en Puisée, elle n'y est pas beaucoup revenue, deux ou trois fois simplement. On ne le sait pas. C'est pour ça que moi je trouvais un peu stupide d'y installer le musée Colette, parce que franchement, la maison n'a plus grand-chose à voir, sauf que c'est une maison dont la famille a été expulsée, puisqu'il y a une ruine considérable, extrêmement traumatisante probablement pour Colette, et que donc cette maison qui est devenue le musée, j'espère qu'il n'y a personne qui est à la Société des Amis de Colette dans le public. On peut dire que elle n'a pas grand intérêt, mais elle a de l'intérêt dans la mesure où elle a été une source d'inspiration très forte, très puissante, et on va retrouver ce pays littérairement, mais bien plus tard, et plus particulièrement quand la mère Sido sera morte. En réalité, donc, je le disais, elle ne reviendra que très rarement, ce que d'ailleurs va lui reprocher Sido, sa mère, qui n'arrête pas de lui écrire. Si vous reprenez la correspondance de Sido à Colette, elle n'arrête pas de la supplier, viens me voir, etc. Et Colette, non, elle ne viendra d'ailleurs même pas aux obsèques de sa mère, ce que Achille, le frère, lui reprochera toute sa vie. Et c'est quelque chose quand même d'assez particulier. Hein. Quand on évoque le lien Sido-Colette, on se dira la fusion, l'amour, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça, on pourra toujours en reparler. Donc, elle a écrit aussi, Colette, « J'appartiens à un pays que j'ai quitté ». Ça, c'est de la littérature, c'est après qu'elle écrit ça. « J'appartiens à un pays que j'ai quitté, tu ne peux empêcher qu'à cette heure s'y épanouisse au soleil toute une chevelure embaumée de forêt. Rien ne peut t'empêcher qu'à cette heure l'herbe profonde y noie le pied des arbres d'un vert délicieux et apaisant dont mon âme a soif. Viens, toi qui l'ignore, etc., etc. Bon, c'est très beau, mais c'est la littérature. Alors, quelques caractéristiques quand même de Colette, hein, dont il faut que je vous parle, qui ont imprégné la sensibilité de Colette et peut-être préparé ce terrain à ce qu'elle devienne un grand écrivain. Donc, c'est une famille républicaine, cultivée. C'est pas des paysans, hein, comme on a souvent laissé entendre Colette, la rurale, montée à Paris. Non, c'est pas ça. C'est une famille très cultivée, une famille républicaine, franchement républicaine, dans une petite commune donc. Sido lit des œuvres païennes pendant la messe, alors que tous les villageois sont là, en attente évidemment des paroles du curé. Et Sido, elle, bien dissimulée sous son missel, elle a caché des œuvres de Corneille, de Saint-Simon, et elle lit ça sous les yeux du curé. Elle provoque, hein, c'est une drôle de bonne femme. Hein. Mais le curé n'est pas dupe. Et quand Sido va à la messe avec son petit chien, elle lui a appris à aboyer pendant la consécration. Sous les yeux du prêtre courroucé, il entend la sonnette et oh, il se met à aboyer. Donc c'est une femme fantasque, une femme bizarre. Elle est bizarre aujourd'hui, je pense qu'on dirait qu'elle est borderline. Oui, c'est ce que dit, ce que disent d'autres biographes. Hein. Elle parle aux nuages, elle surveille étroitement ses enfants, Colette notamment, qui dès qu'elle peut s'échappe du jardin familial. Et Sido, qui crie « Les enfants, où sont les enfants ?» Et quelquefois, les enfants, eh ben, ils reparaissent en disant « Non, envie », parce que c'est une mère, comme dit Colette, comme l'a écrit Colette dans une de ses petites nouvelles, « Sido est une mère qui est cousue à la jupe de ses filles. » Vous entendez le mot « cousue » C'est de Colette. Et pourrait-on dire au pantalon de ses garçons. Ses garçons, c'est Achille et Léopold. Achille qui est probablement né de l'adultère de la mère. C'est une drôle de famille. Adultère que tout le monde connaissait, mais on préférait ne pas trop en parler. Hein. Mais probablement qu'il est né du père de Colette, notre écrivain, de Jules Colette, et non pas du premier mari, dit Le Gorille, de Sido. Et Léopold, ils ont eu des destinées très tristes, hein, ces deux garçons. Colette a bien fait peut-être d'ailleurs de s'échapper de Saint-Sauveur, parce que quand on voit le destin des trois autres enfants, Juliette, la fille aînée, dont le père est Le Gorille, le premier mari, un ivrogne, mais très riche quand même, bon, donc ça lui donnait un peu de charme, et donc elle l'a épousé, mais c'était sa maison, celle de Saint-Sauveur, hein, c'était sa maison, où elle s'est installée sans scrupule apparemment, avec le capitaine. Donc Achille, donc c'est le fils, bon, il a été reconnu, mais par le capitaine, mais probablement c'est... Voilà. Et puis il y a Léopold. Alors Léopold, lui, c'est un enfant bizarre. Autant Achille l'est aussi. Dès qu'il entend un bruit de sonnette, il s'échappe, il a peur. C'est-à-dire que Colette a fermé en quelque sorte la maison aux autres. Et on comprend que finalement, Colette enfant, Gabriel, chaque fois a eu envie de s'éloigner de cette mère qui était extrêmement fusionnel, moi je dis un peu borderline, hein, faut même le dire hein, sur le plan clinique. Et Léopold, donc c'est le dernier donc des frères, hein, Léopold qu'on appelle le sylphe, doué pour beaucoup de choses, il s'amusait à faire des petites tombes dans le jardin. Et il a fini sa vie un peu, on peut dire, comme un SDF, il s'est clochardisé, pas de métier, il collectionnait les timbres. Enfin, les enfants ont mal fini et Achille est mort. 13 mois après la mort de sa mère. Il n'a pas survécu à l'amour qu'il lui portait et au manque que la mort de Sido créait pour lui. Juliette, elle, la fille aînée, elle s'est suicidée après un mariage qu'elle a... Ah, vous voyez, hein, vous ne saviez pas tout ça. Mais Colette a quand même bien, je dirais, verrouillé certains faits, mais après tout, elle est écrivain, elle n'est pas obligée de tout dire hein, de sa vie. Donc, on peut dire que la relation avec Sido, entre Colette et Sido, n'a pas été aussi idéale qu'on l'a laissé penser. Elle apparaît dans les textes que Colette lui a consacrés 10 ans après sa mort. 10 ans après sa mort, elle a pu faire vraiment, elle a pu parler de sa mère et en dire du bien 10 ans après sa mort. c'est-à-dire après être sûr d'avoir en quelque sorte coupé le cordon qui la reliait à cette femme. Et la peur, parce que c'est, je crois que Colette, avait, on le voit dans la correspondance, avait peur quand même de cette mère qui était là, qui l'aspirait, quoi, qui ne la laissait pas indépendante. Donc, elle recrée, Colette va recréer donc sa mère, mais de manière littéraire, sur le papier. Oh, sur le papier, on n'a pas peur des gens, surtout quand ils sont morts. Bon, donc on va voir arriver Colette, donc écrivant autour de Sido et en faisant un personnage romanesque, fantasque, un personnage très fort, très puissant, dans la maison de Colette, les vrilles de la vigne et Sido. Et on peut dire alors que ces textes-là, qui étaient des textes en hommage à la mère, ont été classicisés par le champ littéraire. C'est-à-dire, c'était les seuls qui, d'après ce qui décide des programmes scolaires, étaient montrables à des enfants. Le reste étant quand même un peu trop marqué par le soufre. Mais bon, la maison de Colette, les fruits de la vigne, Sido, c'est mignon. C'est la mer, c'est le jardin, les animaux, Kiki la doucette, enfin tous ces... Bon. Donc, voilà, ces textes-là ont été, c'est par eux, je pense, que nous avons tous connu Colette, à travers les dictées, Geneviève, tu en parlais, à travers les dictées, et puis à travers quand même les manuels de littérature destinés aux enfants. Après Colette, on n'en parle plus, la honte. Donc, la mère n'écrit pas. La mère n'écrit pas. Les papiers qu'elle trouve quand le père meurt, on a toujours pensé qu'il voulait être écrivain. Effectivement, il montait avec sa jambe amputée de sa jambe, au premier étage de la maison. Elle a entendu le bruit de la canne. Il montait et c'était en haut la bibliothèque, l'endroit où il était censé produire une œuvre d'écrivain. Or, quand il meurt, on découvre 12 cartons vides. Il n'a rien écrit, sauf une dédicace amoureuse à sa femme. Il a toujours aimé. Elle lui reprochera, d'ailleurs, Sido, ah oui, mais s'il m'avait moins aimé, on n'en serait pas là. Il aurait été un grand écrivain. Bon, il n'a pas pu être écrivain. Il aimait sa femme. Et je pense que ce lien négatif entre aimer et ne pas écrire, si on aime trop, on n'écrit pas, comme Jules, au fond, Colette l'a démontré à sa façon, ça ne crée pas une vocation littéraire. En tout cas, ou ça ne crée pas non plus des amours parfaites. Bon, en tout cas, il semble bien que Colette est retenue, la jeune Colette, hein, je vais appeler Gabrielle, est retenue en tout cas que le père n'écrivait pas et que faisait la mère des feuillets de papier qu'elle... Alors, Colette, elle a recueilli tous ces feuillets de papier vierges qu'elle a utilisés, elle, pour commencer à écrire. C'est pas innocent. La mère, elle utilisait les feuilles de papier de son défunt. Elle y enroulait le poisson ou les côtelettes. C'est vous dire que la vocation littéraire n'était pas du côté maternel. Voilà. Donc, une recréation de la mère et un milieu qui, a priori, vu l'emprise de la mère sur la famille, y compris sur le capitaine, n'est pas propice vraiment à faire de Gabriel un écrivain. Paradoxalement aussi, qu'est-ce qui peut présider à l'avenir de l'écrivain Colette et qui finalement sera aussi un défi. Donc elle est née donc dans cette famille où circulait quand même non seulement la culture, je vous l'ai dit, mais aussi la libre pensée de l'époque. Le père donc est républicain et lit toute la presse républicaine. Il a envisagé de tenter des élections lors du renouvellement du Conseil général de Lyon. Il y a échoué. La petite Gabrielle a son contact. Il en fera son agent électoral, le meilleur agent électoral. Il a amené d'ailleurs, dit-elle, dans les cafés hein, pour faire sa campagne. Et elle buvait comme un homme, quoi. Et donc, elle rentrait un peu pompette, ce qui fait qu'un jour, Sido a dit « Ah mais non, mais là, c'est terminé. La petite, tu ne l'amènes plus dans ta campagne. » Dans la mesure où elle revenait, pas ivre morte, mais enfin, pas loin, quoi. C'est une petite fille, quand même, hein. Donc ce père, amputé donc de la guerre, doué quand même, hein, faisait des discours, il écrivait des vers, mais il a été décoré de la Légion d'honneur par Napoléon III en personne, mais il est associé à un échec. Il aurait voulu être écrivain, mais ça n'a pas marché. Il aurait voulu être politique, ça n'a pas marché. Donc pour la jeune Colette, ce sont des épisodes marquants dans sa vie. Elle parlera de ça, hein, mais longtemps après, elle sera dans l'âge de la maturité, et elle évoquera ce père, qui est relativement peu évoqué finalement dans les textes de Colette, mais elle l'évoquera en disant « je l'ai peut-être mal connue, je l'ai méconnue », la présence de la mère étant quand même très forte dans cette famille. Et donc Sido dit, et elle ne s'en prive pas, « Ah, ce capitaine, ton père, s'il avait voulu, il était doué pour tout. Quel dommage qu'il m'ait aimé. » Voilà. Donc, ce sont des paroles, comme je vous dis, qui ne tombent pas dans l'oreille d'une sourde. Et la découverte donc des manuscrits vides, c'est un choc pour Colette, dans la mesure où, vraiment, elle était vraiment persuadée que son père écrivait. En plus, il était plus cultivé que la mère, sans aucun doute. Bon. Donc, elle dit qu'elle a écrit, qu'elle n'a jamais eu la vocation d'écrire. Écrire pour elle, ça n'a jamais été un objectif. Et je vous cite ce qu'elle écrit. « Non, dans ma jeunesse, je n'ai jamais, jamais désiré écrire. Non, je ne me suis pas levée la nuit en cachette pour écrire des vers au crayon sur le couvercle d'une boîte à chaussures. Non, je n'ai pas jeté au vent d'ouest et au clair de lune des paroles inspirées. J'étais donc bien la seule de mon espèce, la seule mise au monde pour ne pas écrire. » Quelle douceur j'ai pu goûter à cette absence de vocation littéraire. Alors, quand on part comme ça, on se dit ça ne marchera jamais. Et pourtant, la vocation littéraire, elle va y répondre après des détours et obstacles, mais elle écrira toujours cette aventure de l'écrivain en tant qu'écrivain et futur écrivain comme une aventure mélancolique, une souffrance. Il faudra attendre vraiment la fin de sa vie, hein, c'est-à-dire elle a 70 ans, Fanal bleu, Vesper, ce sont les dernières œuvres de sa vie, où là, elle dit qu'enfin, elle a envie d'écrire. Mais elle aura passé toute sa vie sur la plainte de devoir écrire, on sent ça comme une pression. Donc, rien ne la prédispose au départ à devenir écrivain, et évidemment, encore moins grand écrivain. Alors, il y a d'autres singularités, quand même, qui ont joué, en quelque sorte, dans le destin de Colette, mais en même temps, c'est des singularités dont elle a su se saisir. C'est-à-dire que ce n'est pas venu comme ça. C'est-à-dire qu'elle a eu finalement cette espèce, je dirais, d'habileté de savoir utiliser ce qu'elle traversait dans la vie, ce qu'elle connaissait dans la vie, que ce soit dans la famille ou que ce soit après quand elle a épousé Willy. Donc, il y a ce mariage avec Willy, il fait d'elle, vous le savez, c'est très connu, son nègre, hein, c'est comme ça qu'on dit à l'époque, son nègre, et elle entre dans l'équipe de ceux qui écrivent pour lui. Lui ne peut pas écrire, il n'y arrive pas. Elle a montré comme un type vraiment impuissant à l'écriture. Bon. Et donc, Willy va détourner, vous le savez, les premiers romans. Il va un petit peu obliger, c'est lui qui met Colette à l'écriture. Alors, elle va en faire un reproche, parce que c'est une femme qui est quand même rancunière. C'est pas quelqu'un de très gentil. je sais plus qui c'est. Francis Carco qui disait « Ah, Colette, c'est une vieille vache. » C'est pas moi qui le dis, hein. C'est cité dans les biographies, tout ce qu'il y a de plus académique. Et donc, Willy, vous le savez, elle va vraiment le vilipender, elle va en faire quelqu'un de détestable, un type qui, au fond, l'a amené à des conduites de débauché, mais en même temps, c'est quand même lui. Bien sûr, il a signé ses œuvres, alors elle lui en a voulu, mais il faut savoir qu'à l'époque, début du XXe siècle, 1900, 1910, etc., une femme n'avait pas le droit de signer son œuvre. Donc elle a beau jeu après de dire « Ah oui, mais Willy m'a volé mon œuvre », elle n'avait pas le choix. Et il a fallu vraiment qu'elle se batte, y compris sur le plan juridique, pour qu'en 1924, elle arrive à signer, récupérer d'ailleurs les droits d'auteur des Claudines, qu'il avait signé, qu'elle était arrivée à signer en mettant Colette Willy. Et puis à un moment donné, elle s'est battue, c'est une lutteuse hein, cette femme, elle s'est battue pour pouvoir revendiquer effectivement l'écriture de son œuvre. Et donc, s'appelait Colette, on trouve encore des éditions, jusque vers les années 40, signée Colette Willy. Mais elle s'est battue vraiment, mais il faut quand même admettre que Willy l'a mise à l'écriture. C'est lui qui, au fond, lui a fait découvrir le talent qu'elle avait. Et les textes, les premiers Claudines, sont sortis grâce à Willy, qui était d'une famille très bourgeoise, une famille d'ailleurs qui ne voulait pas qu'il épouse Colette parce que Colette était sans dot, la famille ayant été ruinée. Donc il a de l'argent, mais si je vous dis cela, c'est pour que vous ne marchiez pas dans les pas de la critique qui vilipende complètement de manière absolue Willy. N'empêche qu'elle l'a ruinée. la laisser mourir, comme elle l'avait fait avec Missy. Il dit que ce n'est pas quelqu'un de très gentil. Mais bon, en même temps, on se dit que pour être un grand écrivain, il ne faut pas être non plus Sainte Bernadette, quoi. Vous voyez ? Voilà. Donc, grâce à lui, elle a rencontré aussi tout un monde culturel parisien. Elle a fréquenté les salons. Elle a fréquenté les salons de Madame Armand de Cavaillé, de Madame de Noailles. Elle a rencontré des gens qui écrivaient déjà, qui étaient déjà dans le champ littéraire. Le jeune Proust, qu'elle appelle, aujourd'hui on se ferait tuer si on disait ça, le jeune Youpin. Mais à l'époque, l'antisémitisme est pratiqué. Et donc, il n'y a pas eu de censure. Aujourd'hui, mon Dieu, c'est pas la peine de brosser un scud sur la tête immédiatement. D'autres obstacles ont pu aussi empêcher Colette, au départ, de devenir ce grand écrivain. Là, ce qui m'intéresse dans ce que je vous dis, c'est au fond les efforts que cette femme a fait en étant aidée, en sachant voir où étaient ses appuis, même si après elle les a un petit peu travestis en disant c'était pas des appuis, Sido c'est ceci, Willy c'est cela, Missy c'est ceci. Bon. Elle a su quand même s'en servir, ce qui prouve quand même une sacrée bonne femme. Hein. C'était reconnu d'ailleurs dans les dernières années de sa vie. Je crois que c'est Maurice Boudequet, le dernier mari, qui dit donc elle est très mal, donc elle va mourir peu de temps après, s'éteindre doucement. Et il y a un visiteur qui vient, qui la connaît bien, je ne sais plus lequel. Hein. Et qui dit, tiens, Colette a cessé d'être méchante. C'est bizarre, elle ne va pas durer. Alors, pour vous dire comme la réputation qu'elle a de son vivant, hein, auprès de Cocteau, auprès de ceux qui l'ont connue. Mais ça n'empêche rien, on peut être une peste et être un grand écrivain. Soyez rassurés. Voilà. Donc, lorsque elle arrive dans ce milieu... ah oui, voilà. Excusez-moi, j'avais sauté quand même un épisode important. Donc, Sido... devant quand même cette vie qu'elle devine quand même à Paris, sa fille dans les salons avec son accent bourguignon, et puis qui a quand même aussi une vie quand elle va quitter par exemple Willy, elle aura fait parler d'elle, se sera mise nue, elle aura fait un scandale sur scène, elle sera allée dans le music-hall où on ne rencontre que des demi-mondaines, des prostituées, lisez l'envers du music-hall, qui est un témoignage extraordinaire sur la vie, effectivement, des saltimbanques. Elle a été saltimbanque, parce qu'à un moment donné, privée d'argent, il faut dire que Willy n'en ramenait pas beaucoup, hein, une fois que ses nègres arrêtaient d'écrire, il a fallu qu'elle gagne de l'argent. Donc c'est la scène, c'est le music hall, l'écriture, bon, oui, elle écrit, mais tant qu'elle n'a pas de droit d'auteur, elle ne peut pas vivre. Et donc elle va, effectivement... faire des démonstrations assez spectaculaires au théâtre, au music-hall, et montrer quand même, on est quand même 1900, 1905, 1910, son mariage aura duré 10 ans avec Willy, quand elle arrive comme ça sur scène, elle fait scandale. Elle fait scandale, d'autant qu'elle s'affiche avec Missy, qui est la nièce donc de Napoléon III, c'est la marquise de Morny, alors c'est un homme, hein. Elle est là, pantalon. Si vous voyez des photos, c'est incroyable. Cigarette au bec, en pantalon, cheveux courts, chapeau de forme. Et elle s'affiche avec Missy, qui fait partie des marginales, qui fait partie aussi de l'homosexualité, du lesbianisme. Mais sachez aussi que le lesbianisme, à l'époque, c'est une manière dont les femmes qui écrivent, l'intelligentsia féminine, se distinguent. Donc c'est en quelque sorte une particularité gratifiante pour ces femmes-là. Elles se font aussi remarquer par ça. C'est René Vivien, par exemple. Bon, il y a Missy. Et donc la vie de Colette va être un tumulte, une vie tapageuse. Il y aura la police qui viendra dans les spectacles, il y aura des complots, il y aura une vie vraiment qui est une vie de danseuse, de saltimbanque, puis de femme qui aime se montrer. Elle n'a pas peur du scandale. Elle s'est montrée en trio amoureux, par exemple avec Willy, qui aimait bien les petites filles, et qui se promène avec ce qu'il appelle ses twins, c'est-à-dire ses polaires, qui est aussi une comédienne, qui est allée chercher dans ce milieu-là. Et puis Colette, dont il dit qu'elle ressemble à Polaire, cette petite jeune femme, et il se promène comme ça avec ces deux femmes qui font scandale dans le Paris mondain. On les reçoit, mais en disant, mais quel couple étrange, c'est très bizarre ce trio. Et puis toutes les frasques hein, de Willy, parce que lui aussi quand même se fait remarquer, il est marginal lui aussi par rapport à son milieu, c'est pas ça que sa famille attendait de lui. Donc quand elle arrive effectivement donc dans ce milieu de music-hall, elle continue d'écrire. Elle n'a jamais cessé d'écrire. Donc ça aussi, c'est quand même un point fort qui est à mettre à son crédit. Elle n'a jamais cessé d'écrire. C'est-à-dire qu'elle a toujours, finalement, eu cette envie de produire. Même si elle disait qu'elle n'avait pas la vocation d'écrire. Le soir, par exemple, en rentrant de ses tournées avec Vague, ses tournées barrées dans la réalité, le soir, elle rentre épuisée, l'envers du music-hall, hein, elle raconte ça, et effectivement, épuisée, elle a quand même envie d'écrire. Si vous lisez, par exemple, La Vagabonde, dans La Vagabonde, c'est ça aussi qu'elle raconte, c'est-à-dire une expérience autobiographique. Donc, tumulte, affichage irrespectueux à l'endroit de la morale publique, divorce, lesbianisme, exhibition sur scène, danseuse de music-hall. Elle s'arrêtera de faire du music-hall en 1912-1913, quand ayant rencontré de Jouvenel, Henri de Jouvenel, qui veut faire anglais, donc il écrit Henri avec un Y, elle tombe enceinte, donc elle ne peut plus se produire sur scène. Elle a pris des cours de boxe pour pouvoir boxer notamment une rivale. Mais vous riez, mais c'est vrai. Elle a fait installer dans une de ses maisons une salle de gymnastique où elle fait des haltères. C'est une costaud, hein. Quand on voit les photos de sa maturité, c'est une femme, le corps, la sensualité, c'est un de ses thèmes. Ça fait partie vraiment de sa vie. Donc, mais évidemment, il faut quand même bien dire que ça ne prépare pas une bonne réputation dans le milieu parisien quand on veut devenir un grand écrivain, un écrivain honorable. Mais elle va y arriver quand même. Pourquoi ? Elle va sortir de cette marginalité un peu honteuse quand elle va rencontrer, eh bien, Henri de Jouvenel. Alors, c'est un baron. C'est un baron qui va l'aider à sortir de sa honte sociale, en quelque sorte. Elle va se racheter, en quelque sorte, une identité sociale. Elle va devenir baronne. Elle va fréquenter, effectivement, le château qui est en Corrèze. Vous l'avez peut-être... Aujourd'hui, c'est un hôtel magnifique, plusieurs étoiles, piscine, grand parc, etc. Donc, elle y va. Elle va même, d'ailleurs, y mettre sa fille quand la guerre va arriver, pour la mettre à l'abri effectivement de l'occupation. Et quand elle rencontre le baron de Jouvenel, il est baron par la grâce d'une ordonnance royale hein, qui date dans la famille de 1817 et qui a anobli la famille. Donc lui, c'est un homme qui est plus jeune qu'elle. Willy avait 17 ans de plus qu'elle. Lui, il a 3 ans de moins qu'elle. C'est une figure en vue, c'est un notable, c'est un homme très cultivé. Il dirige un journal le matin. C'est un homme que les femmes remarquent. Et évidemment, il remarque les femmes, parce que c'est un homme à femme. Et c'est comme ça que ça se terminera d'ailleurs, sur les infidélités réciproques. Donc lui, c'est un chef de cabinet au ministère de la Justice. Puis en 1906, à l'époque du Bloc des Gauches, il passe au commerce. Rédacteur en chef, directeur d'un quotidien, un grand journal, il y a beaucoup de journaux à l'époque. C'est un journal novateur sur le modèle d'un journal anglais qui s'appelle Morning News. Et en 1922, il rentrera dans la politique. Il deviendra sénateur de la Corrèze jusqu'à sa mort en 1935. Donc, il est devenu son amant quand elle l'a rencontré au matin, parce que de temps en temps, elle faisait des piges hein, dans les journaux. Il est déjà engagé avec une autre femme, la Panthère, et c'est contre cette Panthère qu'elle va prendre des cours de boxe, parce que la Panthère veut s'appeler Madame de Jouvenel. Or, Colette veut, elle, être Madame de Jouvenel. Donc, la Panthère, elle la boxe. Alors, elle est connue quand même, elle va être connue grâce aussi quand même à Henri de Jouvenel qui va la récupérer dans son journal et lui donner, au fond, la responsabilité de la rubrique littéraire, des petits faits divers, etc. Et elle y excelle. Elle va produire des contes. Et elle fera non seulement une belle carrière au Matin, qui est donc le journal donc de Jouvenel, mais les autres journaux vont remarquer sa plume. Parce qu'au fond, elle sait écrire, elle a un talent fantastique. Et donc elle se fait remarquer. Et petit à petit comme ça, elle va se faire connaître. Alors elle va produire des articles notamment sur certains faits de la vie contemporaine, notamment si vous lisez Les Heures Longues, elle a traversé deux guerres, presque dire trois avec son père, mais deux guerres en particulier. Et donc, elle va écrire sur la vie de ses contemporains. Ça va être la mode, ça va être les femmes et les enfants qui travaillent en 14-18 à la place des hommes. Elle va écrire aussi sur l'arrestation de Jules Bonneau, vous savez, Raymond Lascience, le chef de la bande. Bon. Et c'est des articles chaque fois qui marquent. Elle va écrire également des articles, des chroniques judiciaires. Alors là, c'est des noms que vous connaissez, c'est Violette Nozière, qui a assassiné son père et failli estampiller aussi sa mère, la bande à Bonneau. Et puis Landru, qui l'a séduit assez. C'est assez bizarre. Mais cet homme-là, il a aimé les femmes à sa manière, vous le savez, et elle est un peu séduite par le regard qu'il a. Il a un regard fixe, hein. Il a un regard très très curieux. Et donc elle va écrire, mais finalement elle n'est pas très très dure avec lui. Hein. Et donc d'autres journaux vont la solliciter. Elle publie des articles qu'elle va rassembler à la fin de sa vie, grâce à un homme encore, ça sera Maurice Goudequet, son dernier compagnon, qui l'admire depuis qu'il est enfant. Il s'est dit, cette femme-là, je l'épouserai. Bon, lui, il est beaucoup plus jeune qu'elle. Et donc, elle va produire comme ça un certain nombre d'articles qui seront éparpillés dans différentes revues, publicités, journaux, chroniques, etc. Et c'est Maurice Goudequet qu'elle rencontrera après l'aventure donc, qu'elle a eue avec le fils quand même d'Henri de Jouvenel, il faut le faire, je vous en parlais, hein, mais ça fait partie quand même des gros obstacles qu'elle aurait pu rencontrer en tant que futur grand écrivain. Donc, elle dit, elle travaille, mais en même temps, c'est une travailleuse. Moi, je trouve ça extraordinaire, c'est qu'elle travaille. Elle dit qu'elle travaille à la sueur de sa langue. Elle dit qu'elle écrit avec lenteur, qu'elle pond goutte à goutte et avec répugnance. Et sa fidèle Marguerite Moreno, qui est son amie, elle lui écrit en 23 en lui disant « Le travail empoisonne ma vie ». Ce qu'elle aimerait, c'est pouvoir nager, c'est pouvoir manger, c'est pouvoir tranquillement profiter de la vie, quoi. Elle, c'est une grande nageuse. Hein. Autre chose, quand même, c'est cette histoire de la baronne de Jouvenel qui va séduire le fils de son mari. Qui, alors, elle a presque 50 ans. Oui, riez pas, c'est vrai. Lui, il en a 16-17. Et ça va être un grand amour, hein, pour lui comme pour elle. Pour lui, probablement, il refusera des mariages qui sont au niveau de son rang social et que la famille, la Panthère, va à tout prix lui faire épouser des femmes de la bonne société. Il restera très fidèle jusque dans sa vieillesse, quand il parle de Colette. Lui aussi, il a eu une carrière de diplomate. Hein, c'est des gens qui sont restés dans ce milieu-là. Ça a été le grand amour quand même de Bertrand de Jouvenel. Et elle, jusqu'à la fin, elle a gardé pour lui une espèce comme ça de sensibilité, de voilà quoi. Donc, mais il faut faire avaler ça quand même. Hein. Quand on veut paraître un grand écrivain, c'est quasiment de la pédophilie, quoi. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on dirait. Donc il va falloir, malgré toutes ces casseroles, j'ai pas écrit ça, hein, mais malgré toutes ces casseroles, il va falloir quand même qu'elle les fasse oublier un peu le tintement de ces casseroles pour occuper et être en vue, et en belle vue, le champ littéraire. Et elle va y réussir. Parce qu'elle écrit et que finalement, elle va convaincre par son talent, son intelligence, elle ne se fâche avec personne. Hein. Pas de droite, pas de gauche, même s'il y a quelques petits dérapages pendant l'occupation. Mais elle va s'en tenir à une attitude relativement neutre qui fait que même Mauriac aura envie d'aller la convertir, mais vous imaginez bien aller convertir Colette à la religion catholique, c'était quand même un challenge, mais il n'a pas réussi. Hein. Il lui avait offert un missel, dites. Bon. Imaginez ce qu'elle a pu en faire quand on pense ce que sa mère faisait du missel avec son chien à côté. Et en 1920, alors qu'elle n'a pas cessé d'écrire, que beaucoup de textes sont parus, elle a déjà une certaine notoriété, mais elle reçoit enfin la révérence des grands. En décembre 1920, elle reçoit une lettre suite à la publication de Chéri, qui est un. Alors, la publication de Chéri, ça a été écrit. Bon, bref, j'y reviendrai. Ce sont des félicitations, et pas de n'importe qui, Cette lettre est signée, votre très attentif, André Gide. Alors André Gide, à cette époque, il occupe un poste remarquable dans le champ littéraire. Il a été l'un des fondateurs de la Nouvelle Revue Française, la NRF, qui est une revue, et une revue de critique et de production littéraire de référence à l'époque, qui a été créée en 1908. Il a été directeur littéraire de cette revue, et elle recueille vraiment la plume des très grands. Et c'est aussi un moyen formidable, après avoir reçu comme ça les hommages Gide pour Colette, de se faire aussi, de rencontrer aussi des grands. Donc, en 1920, Gide a publié un article très élogieux. Il dit qu'il considère Colette comme un grand écrivain, je le cite, qui a introduit dans la littérature la prose féminine qui lui manquait, et cela, écrit-il, avec un art spontané. Il reconnaît aussi qu'elle a une grande intelligence, venant d'un homme, bon, on me dirait Gide. Mais, oui. Et ça, c'est le regard que j'ai après coup. Mais venant de, à l'époque, je crois qu'on ne censurait pas autant qu'aujourd'hui. Hein. Et donc, il lui reconnaît quand même une très grande intelligence et beaucoup de respect pour elle. Certes, dit-il, il y a eu avant Marguerite de Navarre, Madame de Staël, Georges Sand, mais selon Gide, elles écrivaient comme des hommes. Colette, c'est donc une exception, et une exception, évidemment, c'est pas rien, quoi. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment préserver, entourer, garder. Donc, c'est une exception dans le domaine de la littérature. André Mauriac venait aussi lui exprimer ses grands compliments, tout en s'accusant comme d'un péché exquis, écrit-il, de la lecture de Chéri. C'est vrai qu'il n'est pas à mettre forcément non plus entre toutes les mains. Gaston Gallimard, qui œuvre aussi à la NRF, eh bien, en dépit de l'opposition de son entourage, il admire l'œuvre de Colette, mais il ne peut pas trop le dire. Toutes ces femmes qui tenaient des salons littéraires, qui l'ont reçu à l'époque avec Willy, expriment toute leur admiration pour ce livre inouï. Et quant à Marcel Proust, il lui rend hommage, un hommage d'admiration et de reconnaissance profonde en signant « Votre ami respectueux ». Alors, ils ont échangé, ils ne se sont jamais rencontrés. Lui, il est toujours couché, il est malade, et elle fait sa vie. Donc, mais ils ont échangé leurs livres. Ils l'ont envoyé, par exemple, à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Elle s'est permis de marquer qu'il y avait des choses qu'il fallait peut-être revoir, réécrire. Pour vous dire, il fallait quand même avoir de l'audace. Elle lui a envoyé un exemplaire de Chéri, puis de Mitsou. Et jusqu'à la mort de Proust en novembre 22, ça mettra fin à cette correspondance. Il y aura entre eux, effectivement, cet échange. Ils ont reçu tous les deux en même temps la médaille de la Légion d'honneur. Et donc, il y a entre eux un échange épistolaire, à la fois respectueux, admiratif. C'est réciproque. Donc, si je résume, écrivain, journaliste, chroniqueuse judiciaire, critique dramatique, directrice littéraire, membre du jury du conservatoire pendant 3 ans, elle a reçu Charles Boyer, qu'elle trouvait très beau, Marie Belle, Fernand Ledoux, Pierre Blanchard, qui est des gens de nos générations pour les connaître, Madeleine Renaud, etc. Elle brasse avec un succès incroyable toutes ses activités. Je vous dis, c'est une travailleuse qui la met en lumière et la font connaître. Et c'est un grand écrivain, enfin, qui est reconnu. Et elle écrira jusqu'en 1949. Elle aura rencontré Apollinaire, Francis Jammes, Félix Carcot, Pierre Benoît, Roland d'Orgelès, Pierre Macorlan, Henri Bataille, Georges Simenon, qu'on appelle Georges Sim, il ne s'appelle pas encore Simenon, Queneau. Et pour elle, ils acceptent d'écrire des articles dans les journaux où elle officie. Il n'y a que Paul Léoto qui lui résiste. Il lui dit, bon, l'après-midi, moi, je travaille, le soir, je vais au théâtre, je n'ai pas le temps. Et elle accepte ça avec beaucoup de grandeur. Jusqu'à la fin de ses jours, Colette aura donc sa place, toute sa place, et même au-delà, dans ce champ littéraire de la première moitié du XXe siècle. Et les faux pas qu'elle a pu faire, au fond, vous le voyez, n'ont pas été, je dirais, catastrophiques, dans la mesure où il faut une certaine habileté quand même pour arriver à s'extirper comme ça de ce qu'elle a connu, de ce qu'elle a montré aussi, parce qu'il y avait cet affichage, et arriver à devenir Colette. Alors, je vais terminer, je ne veux pas non plus vous assommer. Elle finit arthritique à Palais Royal, au premier étage, avec Raymond Oliver, qui tenait le Véfour et qui venait lui apporter les petits repas qu'il faisait dans ce beau restaurant. Il y a Cocteau, enfin, il y a plein de gens bien autour d'elle. Et si on peut, ça sera à la fin, mesurer la renommée d'un écrivain en comptant ses médailles et tous les titres de reconnaissance, on peut vraiment affirmer l'immensité de cette reconnaissance d'une place unique qu'a occupée Colette. Alors, officier de la Légion d'honneur, je ne les cite pas tous, commandant, puis grand officier de la Légion d'honneur, membre de l'Académie royale belge de langue et de littérature française, membre puis président de l'Académie Goncourt, Grand Prix littéraire de Monaco, la grande médaille de la ville de Paris et le diplôme du National Institute of Art and Letters des États-Unis remis par l'ambassadeur des États-Unis à Paris en personne. L'Académie française, très misogyne, ne l'a jamais admise. Aujourd'hui, ce serait pareil, je pense. Le 3 août 54, Colette s'éteint très doucement avec Maurice, sa fille Colette de Jouvenel et sa fidèle Pauline à ses côtés. L'Église n'a pas été sollicitée dans les derniers moments, car elle refuse de recevoir, elle, les derniers sacrements. Et en échange, l'Église, bonne fille, refuse de recevoir sa dépouille. Mais pour Colette, la République reconnaissante déploie ses fastes dans la cour d'honneur du Palais Royal. Elle aura des obsèques nationales. Voilà, tant pis pour l'Église. On lui rend les honneurs militaires. La presse, les politiques, les écrivains de renom, Aragon, Druon, etc., prolongent les hommages pendant plusieurs semaines après sa mort. En 52, déjà affaiblie par la maladie et par l'âge, Colette avait écrit « Je voudrais bien recommencer. » Recommencer. Recommencer. Mais en y réfléchissant, écrit-elle, il me semble bien que ça n'a pas toujours été commode, ces 79 ans, mais c'est court. Non, on voit qu'effectivement, ça n'a pas été commode. Alors j'espère vous avoir donné une idée de cette conquérante que fut cette femme, si singulière en son temps. Merci beaucoup. Avec plaisir.
Avec peu de temps. Alors, il y en a une là-bas. Moi, j'ai une question à vous poser.
Oui.
Il se trouve que grâce à Monique, qui est là-bas, j'ai lu un livre consacré à Colette et écrit par Michel Del Castillo. Oh. C'est vous qui allez m'en trouver le titre exact.
Qui s'appelle Colette, une certaine France.
Voilà.
Et c'est un livre de règlement de compte. Ah ouais. C'est un livre qui est d'une méchanceté incroyable. Moi je l'ai lu aussi, mais il se trouve que Michel Del Castillo, qui a eu une mère affreuse, il a eu une enfance absolument épouvantable, et donc il rencontre dans les années 60 Colette de Jouvenel, dite Belgazou, qui est la fille de Colette et d'Henri de Jouvenel. Et cette femme, c'est une femme qui est très malade, très dépressive, qui se drogue peut-être aussi, et qui au fond, par rapport à une mère que Castillo appelle l'ogresse, n'a pas fait le poids. Il faut vraiment faire le poids, quoi, face à Colette. Avoir une mère comme ça, c'est pas un cadeau non plus, quoi. Et donc, elle lui a raconté, mais à sa façon, toute la mauvaise éducation, le manque d'amour qu'elle n'a pas reçu de sa mère, l'amour qu'elle n'a pas reçu de sa mère. Donc, elle a dressé un portrait extrêmement noir à Michel Del Castillo, qui a vu entre lui et elle une espèce de parenté, de filiation par rapport à la mère. Et donc, il règle ses comptes, mais d'une manière sans nuance, assez méchante, il faut le dire. Et donc, par conséquent, Geneviève, il ne faut pas lire que ça, quoi.
Non, mais je m'en doutais. Enfin, il la présente en fait comme une manipulatrice.
Ah.
Elle s'est servie de sa vie pour construire une œuvre, ce qui n'est pas faux.
Ah, mais oui, mais pourquoi
pas. Faux, mais il lui en fait le reproche, et avec beaucoup d'énergie. Voilà.
Oui, et puis il accuse également de rouerie, de mensonge, de duplicité. Elle n'est pas tout à fait blanche, Colette, mais personne n'est complètement blanc. Je suis sûre que parmi nous, là, on est à double face.
Regardez, regardez la vie de Balzac,
Par exemple, la vie de Balzac n'est pas exemple.
Non.
Ça, je peux vous dire. Donc, elle n'est ni noire, ni blanche. Mais... Voilà, elle est humaine, c'est ça.
Il y avait une question.
Merci beaucoup pour cette présentation très chaleureuse d'une femme passionnée par la littérature, ça se sent. Alors moi, je vais faire de la provocation aussi.
C'est le moment.
Parce que Colette est donc contemporaine de Gide, qui a écrit L'Immoraliste. Mais est-ce que Colette ne serait pas une moraliste ?
Eh bien, le bien et le mal, on dit, je ne sais pas si vous avez lu, vous avez entendu parler du pur et l'impur. La mère, par exemple, faisait ce qu'elle voulait, c'est-à-dire, Colette le dit elle-même, pas de règles dans sa vie, complètement amorale. Bon, je ne parle pas, je ne veux même pas évoquer, mais ça serait intéressant de voir aussi la réputation de Sido à Saint-Sauveur en Puisée avant qu'elle épouse le capitaine. Mais Colette n'a pas honte de son corps. Elle n'est pas marquée par le puritanisme. Elle a une amoralité, je dirais, comme ça, native. Il n'y a pas de morale. Et d'ailleurs, non, elle, même dans les pratiques qu'elle a eues par rapport à des gens qui ont été très gentils avec elle, qui ont été très généreux, elle n'a eu aucun scrupule. Aucun scrupule. Elle n'a pas de nom, je crois que. Elle disait qu'elle pense avec son corps. Et la sensualité qu'on a quand même dégagée de ces textes dit bien en effet que le corps, chez elle, c'est important. La morale, elle s'en fiche. Hein. La vie qu'elle a eue, c'est vraiment une vie de patachon. Hein. J'ai répondu.
Et une autre question ? Y a-t-il une question ? C'est pas une question. Mais.
Ça y ressemble, mais ça n'en est pas une.
Oui, c'est un vieux souvenir. C'est une émission de télévision sur Georges Simenon.
Oui.
Il y a à peu près une cinquantaine d'années de ça. Et ça devait être pour le 100e anniversaire de la naissance de Colette. Mm-hmm. Et cette interview de Georges Simenon était très émouvante parce qu'il racontait comment, grâce aux enseignements de Colette, qui était un peu sa directrice littéraire, il était passé de Georges Sim à Georges Simenon.
Oui, mais et tout à fait.
Oui, la façon dont il décrivait la maîtrise du style que cette dame avait en écriture.
Oui, elle travaillait avec un dictionnaire à côté d'elle. Elle n'a jamais cessé d'écrire, elle aimait écrire. Et elle a été effectivement un appui pour les écrivains qui n'étaient pas encore connus. On n'a rien à lui reprocher sur ce plan-là.
Oui. Là, Georges Simenon le disait très bien. Je crois que beaucoup d'autres écrivains devaient beaucoup à Colette dans leur début. Ils ne l'ont peut-être pas trop dit, mais lui l'affirmait vraiment. C'était assez sympathique. Notamment la façon dont elle lui avait appris à synthétiser les émotions de ses personnages.
Oui, mais oui.
Et c'est ce qui transparaît dans l'œuvre de Georges Simenon, où il est capable, en 3-4 phrases, de faire recevoir toute une atmosphère. Et ça, il disait qu'il l'avait appris de Colette elle-même.
Mais je pense qu'effectivement, sur ce plan-là, il y a toujours deux plans dans la vie des gens. Il y a la vie publique et il y a la vie privée. La vie publique, elle, c'est effectivement autour de l'écriture. Mais effectivement, c'est une femme qui était bien quand même dans l'écriture, qui était bien dans cette compagnie littéraire, culturelle. Et donc, oui, Simenon, effectivement, a beaucoup, beaucoup de gratitude pour Colette. Il y en a d'autres.
Bien, y a-t-il une autre question ? Non, il n'y en a plus. Ah si, Mireille. Mireille, ne fais pas comme le monsieur là-bas, encore que son intervention était très intéressante. Là, tu nous poses une question. Hein.
Merci Mireille. Oui, j'aimerais savoir si justement Colette a eu sa fille, entre guillemets, par accident, et ou si on a des renseignements qui pourraient nous dire qu'elle a quand même aimé, même si elle a élevé maladroitement, étant donné en plus l'enfance qu'elle avait eue et la mère qu'elle avait eue.
Oui, mais oui, d'abord, quand la petite Colette de Jouvenel naît, la mère de Colette vient de mourir, est morte il y a un an. Donc elle-même ne peut devenir mère qu'à la mort de sa propre mère. Et elle a cet enfant, elle a 42 ans.
Déjà.
C'est la fille de Jouvenel, elle est née en 1913 en pleine guerre. Elle ne peut pas s'en occuper, Colette, dans la mesure où effectivement, elle est contente, elle est heureuse. Il y a des textes qui sont magnifiques qu'elle écrit sur sa fille, ce petit bijou. Elle en parle avec ses mots à elle, qui sont des mots très sensuels, elle compare un petit fruit, enfin, il y a des mots, belle gazou, elle l'appelle. Et elle aime sa fille. Elle aime sa fille, mais en même temps, c'est une femme très occupée. Elle était reporter de guerre à Verdun en 14-18. Elle a suivi Henri de Jouvenel. Elle a aussi une carrière qui l'intéresse. Donc, elle va confier la petite. Et puis, il ne faut pas oublier, c'est aussi la guerre. Donc, la petite, elle ne va pas la garder avec elle parce que c'est dangereux aussi. Donc, elle va la confier à la belle famille de Jouvenel, donc en Corrèze, pour la mettre à l'abri. Et elle va la confier à une nourrice anglaise. Alors Colette de Jouvenel dira « Oui, mais ma mère m'a abandonnée, elle m'a confiée, c'est vrai, à des pensions, à des nourrices, etc. » Mais je ne pense pas que ce soit un acte de non-amour de la part de Colette. Simplement, elle a fait comme elle a pu, comme toutes les mères font. On fait comme on peut. Et on pense qu'on fait bien, mais on fait toujours mal, vous le savez.
Oui, on va.
Voyez.
Ah oui, c'était une surprise.
Ça va, 42 ans.
42 ans, et ça a été un vrai bonheur pour elle. Et alors, je dirais que les témoignages, c'est par exemple les lettres que Colette, à son tour, après Sido, Colette, à son tour, écrit des lettres à sa fille. On peut les lire en disant « Mais j'aimerais te voir, viens me voir, etc. » Elle aime, mais à sa façon, on n'est jamais parfait quand on est une mère, hein, vous le savez. Hein.
Bon, eh bien, je vais vous remercier. Nous allons de nouveau applaudir Josette.
Merci.
Qui a été. Et nous en savons davantage. Et surtout, qu'est-ce que vous nous conseilleriez de lire? Alors, d'abord sur Colette et parmi les œuvres de Colette, puisque finalement nous apercevons que nous ne la connaissons pas.
Moi, j'aime bien les heures longues, qui sont un recueil d'articles.
Oui.
C'est là où elle évoque aussi le capitaine. Pour moi, c'est très. Alors évidemment, ils ne sont pas édités comme La Maison de Claudine, mais Les Heures Longues, c'est vraiment un texte très beau. Elle est la seule aussi à avoir trouvé que la guerre pouvait être poétique à cause des fusées qu'elle voyait dans le ciel. Bon, ça, c'est reste entre nous. Hein, bon. Autrement, comme biographie excellente, c'est un gros livre. Il est peut-être édité maintenant dans un livre de poche. C'est un livre qui s'appelle Colette. C'est de Claude Pichois et de Alain Brunet, E-T à la fin, aux éditions de Fallois à Paris, qui sont, je dirais, qui s'appuient sur les faits des archives, des témoignages, des écrits, qui sont. Alors, c'est vrai que Michel Del Castillo a un peu pillé, pour en dire le pique-pendre.
Oui.
Il s'est appuyé sur des faits qui sont relatés par ces deux auteurs. Mais lisez ça parce que c'est vraiment passionnant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, ça vous donne une idée, un enseignement sur l'époque.
Voilà.
Et c'est une époque quand même, elle est née en 1873, elle meurt en 50 et des poussières. Et donc, par conséquent, c'est une grande partie quand même de l'époque,
oui.
Et de la moitié du XXe siècle. Donc ça, oui, voilà. Mais c'est tout. Hein. Et relisez aussi le reste, hein, si vous le trouvez.
Bon, eh bien, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie.
Nous essaierons de faire une place à Colette dans notre bibliothèque.
On va me débrancher.